Soft Power, le numérique et politique. Le débat, Frédéric Martel.
Voilà, comme chaque semaine, il est 20h11, comme chaque semaine depuis une année, le débat, le numérique et politique dans Soft Power sur France Culture réunit deux personnalités du numérique de différentes sensibilités. Et depuis un an, ils et elles ont été plus d'une trentaine à intervenir à ce micro. J'aimerais d'ailleurs les citer ce soir, puisque cette émission est la dernière de la saison. L'ancien ministre Jean-Jacques Ayagon, les députés ou anciens députés Hugo Bernalicis, Éric Botorel, Jean-François Cesarini, Paula Forteza, Jean-Marc Germain, Laure de la Rodière et Christian Paul, et puis les spécialistes du numérique, Gaël Duval, Gaspard Koenig, Elliot Lepers, Séverin Audet, Romain Pigenel, Nicolas Prinsen et donc Alice Zaguri. À partir de la rentrée en septembre, un nouveau format sera lancé, mais ne vous inquiétez pas, vous retrouverez ce rendez-vous à la fois pédagogique et spécialisé de débats sur le numérique. Et pour terminer cette année, ce soir, on parle, au fond, c'est le sujet qui aurait pu nous occuper, qui nous a un peu occupé toute cette année, demain tous entrepreneurs, point d'interrogation. La figure de l'entrepreneur a, comment dire, le vent en poupe. Le président de la République, Emmanuel Macron, fait souvent référence aux start-upers et en rencontre d'ailleurs régulièrement. Créer son entreprise, créer son business, faire sa start-up, sa propre structure est souvent symbole de réussite, au moins pour certains, alors que pour grand nombre d'entrepreneurs, tout n'est pas toujours rose. Les statuts liés à l'auto-entrepreneuriat, l'entrepreneuriat évolue. La France connaît une croissance importante du nombre d'auto-entrepreneurs. Ils étaient 300 000 en 2009. Ils sont plus d'un million depuis 2016. Alors, est-ce qu'on évolue vers un modèle de société où tout le monde doit ou veut ou voudrait devenir entrepreneur? Est-ce une solution? Avec une multiplication du nombre d'entreprises et de travailleurs à leur propre compte, est-ce souhaitable? On en parle avec Alice Zaguri, vous êtes la patronne de The Family, et Elliot Lepers, vous venez de fonder l'ONG Le Mouvement. On commence peut-être par vous, Alice Zaguri. The Family, c'est une société de développement de start-up qui n'est ni un incubateur, ni un investisseur, ni un accélérateur, mais un peu tout cela à la fois.
Exactement. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Donc The Family, c'est un peu une école pour start-up, mais c'est pas l'école tradie, ce sera plus l'école type Montessori, c'est-à-dire qu'on s'adapte aux différents secteurs qui sont représentés par nos start-up, et en fonction de chacun des entrepreneurs, on va offrir de l'éducation, des outils et l'accès au capital.
Vous investissez parfois dans ces start-up ?
Alors non, en fait, en gros, on a un pool de Godfathers, qui sont des investisseurs...
Proches de vous.
Exactement. Qui sont des gens qu'on va recommander à nos entrepreneurs quand ceux-là sont prêts. Et voilà, ça fait 5 ans qu'on a démarré The Family avec mes deux associés qui sont Nicolas Collin et Oussama Amar. Et on l'a démarré...
Dans des très beaux locaux près de la Bastille, apparemment.
Alors ouais, au bout de la deuxième année, on a eu la chance de pouvoir rentrer dans ces locaux magnifiques dans lesquels on a tourné beaucoup de nos vidéos.
Alors, si on en vient au sujet du débat, est-ce qu'une société, la cité française, où tout le monde devrait devenir entrepreneur, est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est inéluctable, selon vous?
Alors, bon, moi, je suis pas apolitique, d'accord? Donc, je vais pas donner une vision méta, je peux parler de mon parcours et de ce que j'ai vu. Et en fait, le truc, c'est que moi-même, je viens pas du milieu business, je viens pas d'un milieu geek, techno, enfin, j'étais pas ingénieur, quoi, à la base. Et au contraire, même mes parents, enfin, mon père, et comme ma mère d'ailleurs, étaient fonctionnaires. Donc, j'ai pas eu un amour.
L'habitus.
voilà, pour dans les start-up, pour la figure entrepreneuriale, en fait, c'est ça que je dirais. Et j'ai commencé
On ne naît pas start-upeuse, on le devient.
Je pense, et en fait, ce qui va rabattre les cartes, c'est Internet. Parce que tout d'un coup, il y a une nouvelle figure qui apparaît, qui est jeune, qui ne demande pas la permission. Qui résout des problèmes.
Le geek, quoi.
Pas nécessairement
le geek. Le start-upper.
Non, parce que c'est un esprit. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'outils qui permettent à n'importe qui de s'exprimer et de proposer son service qu'on n'a plus besoin de savoir coder. Par contre, l'esprit du hacking, lui, il est important. C'est-à-dire, si je n'ai pas la permission, je me la donne. Voilà. Et moi, ce qui va me plaire à cette époque, au moment où je commence à rentrer de manière absolument hasardeuse, j'étais employée d'une asso, et je devais travailler pour des artistes. Et je tombe sur des geeks qui voulaient travailler avec des artistes, et c'est là que je me rends compte qu'il y a un potentiel énorme. Et c'est là que je vais commencer à me dire, à m'y intéresser, à me dire, faut les accompagner, et faut les accompagner pas de manière traditionnelle.
Tout le monde entrepreneur est souhaitable, possible, inéluctable, Elliot Lepers.
En tout cas, il y a un bond dans la création d'entreprise, hein, 4,7% de plus en 2017 par rapport à l'année précédente. Dans ce chiffre, c'est quand même 40% de micro-entreprises, donc les anciens auto-entrepreneurs, auto-entrepreneuses. Et donc ça couvre plein de réalités différentes. Donc il y a évidemment pas mal de gens dans des jeunes générations notamment qui veulent s'affranchir d'un certain ordre établi, qui ne voient pas leur vie dans un salariat, dans des carrières longues au sein de la même entreprise. Évidemment, ça c'est un moteur. Mais derrière, pour moi, il y a aussi une dégradation des conditions de travail, une précarisation. Dans la radio aussi, hein, on le voit partout.
Les intermittents du spectacle
notamment.
À la radio. Ouais.
Donc il y a un mouvement général pour pousser tout le monde à quitter le modèle du salariat et la protection, le système de protection sociale qui a mis du temps à se construire.
Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que si on crée sa start-up, si on est auto-entrepreneur, on paye ses cotisations. C'est-à-dire que, en tout cas, pour une société de type SAS, SARL ou même SAS personnalisée, il faut compter à peu près, souvent, de l'ordre de 50%, si on veut se salarier par sa propre société, de l'argent qu'on reçoit qui part en charge, etc. Ce qu'on oublie très souvent quand on crée ce type de business. Et du coup, soit on est mal couvert, soit on gagne mal sa vie.
Ou bien pas de chômage du tout, pas de retraite pour les micro-entrepreneurs. Quoi. Donc, c'est un changement de modèle.
Alice Zaguri.
Ouais. En fait, je crois que le mouvement, de toute façon, il est global. Donc, il y a personne qui a décidé que l'entrepreneur devait venir. L'entrepreneuriat vient parce que c'est un phénomène qui est global. Et la question, c'est plus comment est-ce qu'on le transforme. C'est-à-dire, quand je comprends complètement ce qui est dit, et c'est vrai, on voit par exemple arriver tous ces jeunes qui font du Deliveroo à vélo dans des conditions qui sont vraiment nulles.
Pareil, même pour le chauffeur Uber,
voilà,
c'est pareil.
Oui.
Uber Eats.
Moi, ce que je vois, et je sais que ça va paraître un peu niais parce que je vois le verre à moitié plein, c'est que ces gens-là, on les voyait pas avant. Et que c'est une première marche. Après, c'est à nous de pas accepter les conditions et de les changer. Mais est-ce qu'il faut regarder le fait, est-ce qu'il faut juger de manière fixe le fait que c'est pas acceptable, ou est-ce qu'il faut se dire bon, il y a un progrès quand tu regardes où ils étaient et où ils sont. Maintenant, c'est à nous de faire bouger les lignes pour que il y ait des meilleures conditions. C'est clair. Et mon associé Nicolas là, il va sortir un bouquin qui s'appelle Edge, qui sera exactement sur ce sujet-là, parce qu'en fait, il faut que la protection sociale, elle s'adapte à cette ère numérique, quoi, et qu'elle est pas adaptée. Mais les gens vont de toute façon de plus en plus avoir besoin, si c'est pas d'être entrepreneur, c'est d'être entreprenant. C'est-à-dire de bénéficier de plus de flexibilité, de choisir son lifestyle, de travailler de la maison s'ils ont envie. Et ça, c'est un mouvement qui, j'ai envie de dire, qu'il faut encourager, quoi.
Alors effectivement, quelles sont les priorités à établir dans ce contexte-là, avec de l'entrepreneuriat qui effectivement est parfois volontaire et aussi, il faut le rappeler, subi, parce qu'évidemment, il y a plein de gens qui sont auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs, à qui on impose d'être freelance aujourd'hui. D'ailleurs, la plupart, beaucoup de jeunes entreprises ne travaillent plus avec des salariés et travaillent avec des gens à qui on propose, voire on impose d'être freelance. Donc du coup, c'est quoi la question? Il y a la question des droits sociaux, il y a aussi la question de l'échec, parce que quand même, il ne faut pas oublier, je n'ai plus les taux en tête, mais probablement vous les avez. Sur ces start-upers, il y a quand même un darwinisme incroyable. Qu'est-ce qui deviennent ces entrepreneurs qui n'ont pas réussi, entre guillemets? On sait qu'il y a toute une légende américaine
du droit
réelle,
à l'échec.
Du droit à l'échec. Est-ce que ce droit à l'échec existe aujourd'hui en France?
Rapidement, tout
voilà,
fail,
alors
quick.
On sait que en France, je crois que quand vous avez deux dépôts de bilan ou deux faillites, vous n'avez plus le droit de monter une entreprise.
Ouais, non, mais ça c'est complètement vrai. Et c'est d'ailleurs interrogé. C'est en train, je pense, hein, que du coup, c'est en train de changer. Le truc de l'entrepreneur, en fait, c'est qu'il y a plusieurs figures entrepreneuriales. D'abord, juste, t'as le start-upper qui, lui, est hyper ambitieux et qui veut ce qu'on appelle un business model qui soit scalable, d'accord,
donc, qui puisse se développer rapidement,
passer à l'échelle. Voilà, passer à l'échelle, merci. Et puis, t'en as d'autres. T'as d'autres modèles. Hein. T'as ce qu'on appelle des lifestyle business qui peuvent aller très loin, mais où t'es pas dans une recherche de passage à l'échelle et t'es dans autre chose. Donc, en fait, ça c'est de plus en plus accessible pour de plus en plus de monde. Maintenant, ta question, c'est
La question, est-ce que la priorité, c'est d'avoir des meilleures protections sociales pour ces entreprises qui se lancent? Et surtout, qu'est-ce qu'on fait des gens qui ne s'en sortent pas, en fait? Quel est l'avenir des entrepreneurs qui ont échoué? Et on sait que les taux sont importants. Parce qu'on parle là, et c'est très bien, de ce grand mouvement qui naît de ces taux-là, 4,7% de plus. On sait très bien qu'il y en a peut-être 3 qui ne seront plus là l'année prochaine. Bah, qu'est-ce qu'il advient de ces gens-là?
Ce que je vois à The Family, en fait, c'est effectivement, en dehors de Family, tu as un taux d'échec de 90%, à l'intérieur, c'est à peu près 60% des boîtes qui se cassent la figure. Ces boîtes-là, elles vont te dire bah, nous, on a gagné une expérience et du coup, les mecs se connaissent entre eux, c'est souvent des mecs, et ils vont et ils vont rejoindre les meilleures startups. D'accord ? Et
celle qui marche.
Celle qui marche. Après, tu as un phénomène aussi que tu constates dans les grands groupes, c'est qu'eux, ils n'arrivent plus du tout à attirer des jeunes vifs qui ont eu une expérience entrepreneuriale et ils essaient de les faire venir chez eux, quoi. Et donc, là, il y a peut-être un intérêt qui se trouve et qui fait qu'ils vont avoir... Le fait d'avoir monté une boîte et de pas l'avoir réussi, ça peut devenir un avantage pour toi pour trouver un taf...
Hilde de Perse, cette question a été évoquée notamment au fond des modes de vie. Est-ce que dans l'image de ceux qui aiment le monde de la start-up, le monde au fond de l'auto-entrepreneuriat, du freelance, il y a des aspects positifs, il y a des aspects négatifs, mais c'est aussi une autre mode de vie. On est le seul à décider, on n'a pas de patron, on peut travailler de chez soi. Tout ça, ça contribue aussi à cette fascination pour ce type de carrière, même si elle a aussi, on l'a dit, des risques et aussi tout un tas de problèmes sociaux.
C'est vrai que ça peut faire rêver. Hein. Après, quand on regarde dans le détail, c'est en moyenne, c'est 58 heures par semaine quand on est chef d'entreprise, le temps de travail. Quoi. Et donc, ça veut dire qu'il y en a qui font beaucoup plus. C'est en moyenne, en général, 6 jours sur 7 pour tout le monde. Donc, il y a à la fois effectivement une fascination pour la liberté que ça procure et puis pour l'accomplissement, pour se dire j'ai
fait quelque chose.
Voilà, je choisis le travail et puis je produis quelque chose de mes mains directement sans subir d'une certaine manière.
C'est très lié aux millennials, on dit aussi, c'est-à-dire à ces nouvelles générations.
Ouais. Totalement. Et c'est clair que ça va conjointement avec une aspiration à retrouver cette liberté, retrouver cette indépendance, cette forme d'autorité aussi, et donc se détacher de l'autorité de l'institution. Et ce qui est intéressant, je pense, c'est que ça transforme l'ensemble de la société. C'est-à-dire que ça pousse notamment les vieilles entreprises, les grandes multinationales, les grands groupes, et notamment en France. Ça les force à se réinterroger parce qu'aujourd'hui, ils ont du mal à recruter grâce à l'émergence de cette culture, d'une certaine manière. Et donc, à proposer des métiers qui ont plus de sens, à proposer des évolutions de carrière qui sont différentes. Donc c'est
à autoriser qu'on travaille de chez soi, qu'on
notamment. Donc c'est à la fois positif sur le fond et sur la vague parce que ça permet de rentrer un peu d'air frais là-dedans et en même temps il faut faire gaffe à ce que ça cache pas d'une certaine manière l'appauvrissement des conditions de travail.
Zoé.
Moi j'ai quand même une question qui est plus une déclaration qu'une question, mais on a toujours l'impression que quand on parle des millennials qui ont envie d'être entrepreneurs, on a l'impression que c'est aussi un truc d'enfant gâté ou en tout cas d'exigences qui sont nouvelles. C'est aussi un contexte du monde du travail qui est plus du tout le même que celui d'il y a 10 ou d'il y a 20 ans. C'est-à-dire que quand on est salarié, on peut être payé relativement mal et travailler beaucoup. Il est possible aujourd'hui de trouver des entreprises où on vous demande de faire ces 58 heures sans que ce soit votre entreprise. Et puis on est aussi dans un contexte où on a des jeunes qui parfois restent au chômage très longtemps en sortant de leurs études et donc qui parfois se mettent à fonder des boîtes aussi parce que pour le moment personne ne les attend. C'est aussi des vraies questions. C'est que le monde du travail en lui-même a changé.
La fameuse formule, puisqu'on est au chômage, le seul moyen de trouver un emploi c'est de créer son emploi et de créer sa boîte pour avoir son propre emploi.
Est-ce que c'est mal en soi en fait ?
C'est pas mal en soi, c'est juste que comme il y a cette espèce de mythologie du millénial plus exigeant qui a du mal à se plier. Je rappelle aussi que le millénial arrive dans une situation économique qui n'est plus celle d'il y a 30 ans et que ça n'est donc pas juste des désirs absolument exigeants de la part de ces jeunes gens qui ont envie de se passer d'un patron. C'est aussi qu'ils arrivent dans un contexte qui aussi les pousse à ça.
Il n'y a plus de patrons qui veulent les embaucher. Alice Zaguri, on rappelle quand même que le millénial, c'est celui qui, au fond, est arrivé à l'âge adulte entre 10 et 20 ans autour de l'année 2000. Donc, c'est des gens qui ont aujourd'hui entre 25 et 35 ans.
Écoute, moi, encore une fois, de ce que je vois, je ne les vois pas subir ça. J'ai pas un accès à l'ensemble des Français millennials. Ceux que je vois arriver, c'est eux qui m'expliquent la vie. Ils sont en train de prendre des cours sur Coursera, ils suivent des tutos sur YouTube. Ils créent leur propre chaîne sans demander quelques permissions que ce soit à qui que ce soit. Et certains font des muses. Alors, on a vu ça récemment arriver à The Family.
C'est quoi des muses?
On a créé une classe masse de jeunes de 15-23 ans, qu'ils étaient 20, et en gros, ils avaient déjà des petits revenus récurrents qu'ils créaient en faisant ce qu'on peut appeler du dropshipping, par exemple. C'est-à-dire tu regardes des produits amusants qui sont vendus sur Alibaba, tu fais ta petite sélection, et puis tu les vends ici, et puis ça te crée un revenu, et ça t'offre une indépendance. Et en fait, je pense que c'est pas suffisant, mais c'est mieux que ce qu'il y avait, le fait qu'il n'y avait pas ça avant, en fait. Et qu'ils sont en train de devenir un peu plus indépendants. Cette question, je pense que la question autour de laquelle on tourne aussi, c'est notre rapport à l'argent. Vachement. Et moi, ce que j'ai vu qui a été questionné, c'est comment est-ce qu'on peut sortir de cette nécessité et cette insécurité-là. Et Internet peut aider là-dessus.
Peut-être une dernière remarque avant la fin de cette émission, et d'ailleurs la dernière de l'année, Elliot de Perse.
Les derniers mots. C'est aussi intéressant de voir qui sont les créateurs, et je dis volontairement créateurs et pas créatrices de l'entreprise, parce que c'est quand même très très majoritairement des hommes, très très majoritairement des hommes blancs. Donc c'est encore une fois...
L'entrepreneuriat n'est pas très inclusif.
Voilà. Alors, c'est un idéal l'inclusion. On pourrait se dire, effectivement, ça permettra à des gens qui seront discriminés s'ils postulent à des postes normaux, de créer leur propre poste. Aujourd'hui encore, c'est les personnes qui ont accès le plus aux privilèges qui ont la possibilité de créer ces entreprises. Donc, où est-ce qu'on peut changer ça ?
Oui et non.
Oui ou non ? Rapidement, un mot.
Écoute, t'as jamais eu autant de gens qui peuvent venir de n'importe où.
Bien sûr.
En fait, c'est juste ça la différence.
Promesse.
C'est qu'avant, t'avais des privilèges, t'avais la voix qui était assurée. Aujourd'hui, Internet rabat les cartes et n'importe qui peut potentiellement s'imposer.
Mais tout le monde ne s'en sent pas la légitimité.
Bien, allez, voilà. on en reste là pour ce soir. Merci infiniment à vous deux, Elliot Lepers, Alice Zaghuri. On se quitte d'ailleurs avec le nouvel album de Gorillaz, le titre Humility, avec George Benson en plus. Gorillaz qui sera en concert le 21 juillet au Vieille Charrue et le 22 juillet à Paris, à l'Hippodrome de Longchamp. Voilà, gare au Gorillaz. Et pour terminer la saison, il fallait une blague qui fait rire personne.
Car on arrive silencieusement.
C'était pour nous ce soir à Soft Power, la dernière émission de la saison. Nous retrouverons le dimanche 2 septembre, toujours 19h à 20h30 pour une nouvelle année, une nouvelle saison, la 13e de Soft Power, avec des nouveautés, de nouvelles voix, de nouvelles rubriques. On vous en dira plus le dimanche 2 septembre. Merci Zoé Svez d'avoir passé cette année à nos côtés.
Merci beaucoup Frédéric.
On vous retrouve en septembre. En attendant, nous prenons nos quartiers d'été. France Culture commence dès demain matin une grille spéciale, car si cette émission est la dernière de la saison, ce dimanche c'est aussi le dernier jour de la grille permanente, entre guillemets, de France Culture. Dès demain matin, c'est notre grille d'été qui commence, avec des surprises, de nouvelles voix également, de nouvelles émissions aussi, et toute une série de programmes que vous pouvez découvrir sur notre site franceculture.fr.